Vous écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
La question de savoir si c'est les malades, ça sert à faire de la recherche, ou s'il faut les soigner. Moi, j'ai dit qu'il fallait les soigner, que c'était plus le temps de la recherche, c'était le temps de les soigner. Moi, j'essaie de faire les choses selon ma conscience.
Sur Europe 1, le professeur Didier Raoult se défend après les affirmations du Canard enchaîné. Il est accusé d'avoir administré de l'hydroxychloroquine sans le consentement de ses patients. Alors que l'OMS annonce ce soir la reprise des essais cliniques, 9 jours après les avoir suspendus, suite à la publication d'une étude dans The Lancet, la revue médicale qui aujourd'hui rétropédale. L'affaire Adama Traoré n'est pas l'affaire George Floyd. Le gouvernement veut mettre fin aux accusations de violences policières entre apaisement et fermeté.
Je suis sur ce sujet intransigeant. S'il y a faute, elle doit être sanctionnée et elles sont sanctionnées.
Le gouvernement et les partenaires sociaux, au chevet de l'économie, ils vont plancher demain sur des solutions pour faire face à la crise. Benvenuti aux touristes, l'Italie rouvre ses frontières aux Européens. Nous serons à Milan qui retrouve un tout petit peu de sa dolce vita.
Ces derniers jours, les Milanais ont commencé à sortir. Peu à peu, la confiance revient.
Piano si sta riprendendo confidenza.
On vous parlera aussi de ce match décisif demain pour Lyon, Amiens et Toulouse devant le Conseil d'État. On parle bien de foot. Et puis la sélection officielle du Festival de Cannes, sans tapis rouge ni paillettes, mais avec quand même plein de bons films à découvrir quand les cinémas rouvriront. La Bourse de Paris a terminé ce soir en forte hausse de 3,36% à 5022 points pour le CAC 40. Didier Hamot de Boursier.com nous dira comment s'est passée cette journée sur les places financières. De la pluie et des orages parfois violents au menu de votre journée de demain, avec en prime une baisse sensible des températures. Gare au vent également en Méditerranée. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, votre rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir Béatrice Denoret, la directrice générale de Belle France, pour tirer les leçons du confinement sur notre consommation. Est-ce que la vache qui rit, par exemple, rigole toujours ?
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mais d'abord, avant de développer les autres titres de l'actualité, peut-être la fin d'une énigme. C'est un fait divers qui a bouleversé l'Europe et même au-delà. Vous vous souvenez sans doute de la disparition de la petite Madeleine McCann en 2007 au Portugal, la petite Maddy. Elle avait 3 ans, elle était en vacances avec ses parents. Depuis, les scénarios les plus rocambolesques ont été élaborés. Bonsoir Hélène Kohl.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin. Hélène, l'Allemagne tient peut-être un sérieux suspect.
Oui, un homme qui a aujourd'hui 43 ans et qui se trouve déjà en prison, condamné entre autres pour des agressions sexuelles sur des fillettes. C'est un Allemand qui vivait à l'époque de la disparition de Maddy au Portugal. Il avait des petits boulots dans les restaurants de la côte de l'Algarve, mais selon la police, il faisait aussi du trafic de stupéfiants et il a été mêlé à des cambriolages dans des hôtels ou des appartements pour touristes. Son téléphone portable, avec une carte SIM et un numéro portugais, a été utilisé le soir de la disparition de la petite fille dans la commune même où la famille McCain passait ses vacances. Le suspect a parlé avec un inconnu qui est activement recherché, lui aussi. Et ce soir, la police criminelle allemande a lancé un appel à témoins en direct sur la chaîne de télévision ZDF. Peut-être que des vacanciers allemands ont remarqué cet homme en 2007 au Portugal. Il utilisait 2 véhicules assez voyants dont les photos ont été diffusées, une Jaguar couleur aubergine et un minibus Volkswagen jaune et blanc. La police pense que l'un de ces 2 véhicules a servi lors de l'enlèvement de Madeleine.
Merci beaucoup Hélène Kohl. En direct, Hélène, correspondante d'Europe 1 en Allemagne. C'est un braquage spectaculaire dont on avait aussi beaucoup parlé à l'époque dans le monde entier, ou presque, celui de Kim Kardashian dans un palace parisien pendant la Fashion Week en octobre 2016. Menacée avec une arme, ligotée, bâillonnée, enfermée dans la salle de bain, 11 personnes soupçonnées d'avoir volé les bijoux de la star, 9 millions d'euros. Et bien ce soir, le parquet demande le renvoi de ces 11 suspects devant la cour d'assises de Paris. Et l'on reparle donc ce soir également du professeur Didier Raoult, qui décidément aura animé les débats depuis le début de cette crise. Cette fois, c'est l'un de ses confrères qui l'aurait signalé à la justice. C'est ce qu'affirme en tout cas le Canard enchaîné. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il aurait administré la fameuse hydroxychloroquine, dont il dit le plus grand bien, à ses patients sans leur consentement. L'ordre des médecins en tout cas est saisi. Et ce soir, l'infectiologue marseillais répond à votre micro, Nathalie Chevance.
Oui, c'était dans son bureau à l'IHU tout à l'heure, en petit comité, et le professeur Raoult ne s'est pas dérobé à la question sur les accusations dont il fait l'objet. Alors c'est vrai qu'un signalement est parvenu le 3 avril à la procureure de Marseille, accusation d'un professionnel de santé dont on ne connaît pas l'identité, qui affirme que 2 études cliniques publiées par l'IHU en pleine épidémie n'ont pas respecté le cadre légal. En clair, de l'hydroxychloroquine aurait été prescrite à des malades du Covid sans qu'ils le sachent, en tout cas sans avoir recueilli un consentement libre et éclairé, ce qui peut constituer une infraction pénale. Alors le professeur Raoult a-t-il quelque chose à se reprocher? Voici sa réponse.
On verra bien, il faut laisser le faire le temps de la justice. Après, ça, la question, savoir si c'est les malades, ça sert à faire de la recherche, ou s'il faut les soigner. Moi, j'ai dit qu'il fallait les soigner, que c'était plus le temps de la recherche, c'était le temps de les soigner.
Mais est-ce qu'il savait qu'il prenait de l'hydroxychloroquine?
Ah, monsieur, non, mais monsieur, bon. Bah, monsieur.
Vous êtes serein?
Ah oui, bah, la nature. Écoutez, moi, j'essaie de faire les choses selon ma conscience. Ouais, je m'en fiche, ça va. Moi, j'ai tous les portraits de ma famille ici, vous savez, c'est eux qui me regardent avec l'air mauvais si je fais une bêtise. Et donc, c'est plus ça qui m'intéresse que l'air du temps, je m'en fiche.
Alors le parquet de Marseille s'est tout de même rapproché de l'Agence nationale de sécurité du médicament pour évaluer les faits, mais à ce stade, aucune décision n'a été prise. Enquête préliminaire ou classement sans suite.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. L'hydroxychloroquine qui continue à déchaîner les passions. Le médicament mis en cause, vous le savez, notamment par une étude publiée par The Lancet. L'OMS et la France s'étaient d'ailleurs basées sur cette étude pour suspendre les essais sur ces traitements ou même les traitements eux-mêmes. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, la revue rétropédale. Du coup, eh bien, l'Organisation mondiale de la santé annonce la reprise des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. On a un peu de mal à comprendre ce qui s'est passé, Virginie Salmen.
Oui, la direction du Lancet a émis une mise en garde vis-à-vis de l'étude publiée dans ses colonnes le 22 mai qui suggérait une surmortalité des patients traités avec cette molécule, associée ou non à un antibiotique, et une recrudescence d'accidents cardiaques. Ça n'est pas encore un retrait de l'article, mais beaucoup de scientifiques le réclament. Il y a deux critiques essentielles. D'abord, la méthode de l'étude. Ça n'est pas la plus solide. On ne part pas de patients tirés au sort à qui on donne un médicament pour vérifier son efficacité. Là, c'est une société américaine spécialisée dans le traitement de données sur Gisphere, qui dit avoir aspiré en quelque sorte les dossiers médicaux de 96 000 patients dans environ 700 hôpitaux dans le monde, donc des données brutes plus difficiles à interpréter. Et puis des erreurs, notamment de codage d'hôpitaux ont été décelées. Par exemple, les 73 morts d'un pays ont été attribués à l'Australie où il n'y a eu que 67 morts du Covid. L'auteur principal de l'étude, le professeur Mandeep Mehra de l'école de médecine de l'université de Harvard aux États-Unis, s'est retourné vers la société de traitement de données sur Gisphere pour lui demander des explications de façon urgente.
Et donc ce soir, Virginie, l'OMS aussi change de braquet.
Oui, les essais cliniques vont reprendre. La scientifique en chef de l'OMS a tenu une conférence de presse en fin d'après-midi, lors de laquelle elle a expliqué qu'il n'y avait finalement probablement pas de surmortalité liée à ces traitements à base de chloroquine, d'hydroxychloroquine, associée ou non à un antibiotique. En France, pour l'instant, pas d'annonce du ministre de la Santé, ni de nouvelles saisines du Haut Conseil de la Santé publique pour éventuellement reprendre les prescriptions d'hydroxychloroquine dans un cadre hospitalier, ce qui a été suspendu.
Virginie Salmen du service Société d'Europe 1 est dans ce contexte mis en place aujourd'hui de la commission d'enquête sur la gestion de la crise à l'Assemblée avant le Sénat à la fin du mois. Un premier rapport publié par des députés pointe les faiblesses de la France. Insuffisance des stocks de masques, gestion de l'approvisionnement et suivi insuffisant des EHPAD. Au lendemain des manifestations de soutien à la famille d'Adama Traoré, le gouvernement appelle à l'apaisement alors que la famille du jeune homme mort en 2016 après son arrestation est convaincue que les gendarmes sont responsables. Hier soir, 20 000 personnes ont participé à cette manifestation qui était pourtant interdite. Une affaire qui prend donc aujourd'hui une tournure politique. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, devant le Sénat, a répondu aux accusations de racisme portées contre les forces de l'ordre.
Il faut faire en sorte que chaque faute, et il peut y en avoir, chaque accès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, fasse l'objet d'une décision, fasse l'objet d'une sanction. Et je suis sur ce sujet intransigeant, parce que l'exigence que nous avons vis-à-vis des policiers qui fauteraient, c'est garantir justement la sérénité du travail de l'ensemble de la police et de la gendarmerie. C'est garantir la défense de cette police républicaine qui, au quotidien, combat le racisme, combat l'antisémitisme et s'engage au quotidien pour défendre l'honneur de la République. S'il y a faute, elle doit être sanctionnée et elles sont sanctionnées.
Le ministre de l'Intérieur cet après-midi au Sénat, alors que beaucoup de manifestants hier faisaient le parallèle avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis après la mort de George Floyd. Eh bien, il y a du nouveau ce soir puisque les 4 policiers ont été inculpés et le décès requalifié en meurtre. Une annonce peut-être de nature à calmer un peu les esprits. Aujourd'hui, le ministre de la Défense américain a pris publiquement position contre Donald Trump. Il se déclare opposé au déploiement de l'armée sur le territoire, déploiement voulu par le président américain. Et puis après Twitter, c'est le réseau social Snapchat qui déclare la guerre à Donald Trump, qui l'accuse d'inciter à la violence raciale. Ces publications, du coup, ne seront plus relayées.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h10, merci d'écouter Europe 1. C'est la suite de votre journal. Et le gouvernement, face à la crise sociale au lendemain du déconfinement, Emmanuel Macron et Édouard Philippe recevront demain à l'Élysée l'ensemble des syndicats et des organisations patronales autour de thèmes cruciaux. Comment préserver l'emploi et accompagner les plus fragiles. Notez que demain, dans la matinale d'Europe 1, le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, sera l'invité de Sonia Mabrouk et de Mathieu Béliard à 8h15. Il répondra ensuite à vos questions au 39-21. Les bailleurs acceptent de reporter de 3 mois les loyers des commerçants locataires affectés par l'épidémie et ce, quelle que soit la taille de leur commerce. Bercy avait nommé une médiatrice sur le sujet. Tous les chemins mènent à nouveau à Rome, mais aussi à Venise ou à Florence. L'Italie a rouvert ses frontières avec l'Europe ce matin. Nouveau symbole du déconfinement qui se poursuit un peu partout. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes à Milan pour Europe 1, là où tout a commencé et où la vie reprend progressivement.
Oui, sur la Piazza del Duomo, devant la cathédrale de Milan et sa façade de pierre aux découpes millimétrées. En revanche, pas besoin de précision pour se déplacer sur le parvis. Faible affluence, les glaciers et les vendeurs de souvenirs sont assis. Et Francesca tient un petit kiosque au pied de la cathédrale, sans client.
Ces derniers jours, les Milanais ont commencé à sortir. C'est pour prendre un peu d'air et peu à peu, la confiance revient, même si certains ont peur. Il fallait qu'on sorte de cet enfermement. Mais c'est difficile de voir cette place comme ça. Normalement, il y a cette affluence à 8h du matin, pas en fin d'après-midi. Je ne l'ai jamais vu comme ça à cette heure-ci.
Ce qui marque ici, ce sont les mesures sanitaires très respectées. Au contraire de Vintimille, où je me trouvais hier, on sent que la ville a été marquée par cette épidémie. Il faut aussi accepter certaines contraintes en entrant dans les établissements. Prise de température, feuille d'émargement pour remonter éventuellement jusqu'à vous en cas de contamination. La reprise se fait lentement dans cette ville, poumon économique du pays. Et c'est là tout l'enjeu de savoir si la Lombardie va vite retrouver son activité.
Jean-Sébastien Soldaini à Milan pour Europe 1. Demain, ce sera l'Autriche qui accueillera de nouveau ses voisins européens, sauf les Italiens. Et pour la Belgique, confirmation de la réouverture des frontières le 15 juin. Le foot au menu du Conseil d'État demain, qui va examiner les recours de 3 clubs qui contestent la décision d'arrêter la saison avec de lourdes conséquences pour Lyon, notamment privé de Coupe d'Europe, ou encore pour Toulouse et Amiens, relégués en Ligue 2. Il n'y a pas de festival de Cannes, vous le savez, cette année, mais il y a quand même une sélection officielle qui a été présentée cet après-midi. 56 films qui bénéficieront du label Cannes 2020. Alors ça donne quoi, Mathieu Charrier ?
Ah, ça donne une belle sélection. Il faut savoir que 2000 films ont été envoyés au comité de sélection cannois. C'est tout simplement un record dans l'histoire de Cannes. On n'avait jamais dépassé cette barre des 2000 films. Et donc, 56 ont été retenus pour être labellisés Cannes 2020, à commencer par le très attendu film de Wes Anderson, The French Dispatch, tourné entièrement à Angoulême et qui est entre la BD, le cinéma d'animation, le cinéma réel, avec un casting de dingue. Autre habitué de la sélection cannoise, François Ozon et son été 85. On a d'ailleurs appris dans la foulée que le film sortirait au cinéma le 15 juillet. Il y a beaucoup de Français hein, d'ailleurs dans cette sélection. Il y a Mai Wen qui sera de retour à Cannes avec son film ADN dans lequel elle joue et évoque son retour à ses racines algériennes. Nicolas Maury, vous savez, le formidable Hervé dans la série 10%, eh bien, il a réalisé son premier film, ça s'appelle Garçon Chiffon. Lui aussi a le label Cannes 2020, tout comme Emmanuel Courcol et son film Un Triomphe, comédie dans laquelle Cadmerad, qui est pourtant pas très habitué à Cannes, Cadmerad joue un acteur déchu qui va dans les prisons pour apprendre le théâtre aux détenus. Et puis vous savez, Cannes, c'est aussi du cinéma sociétal. Alors il y a Marie Castille Mention Char qui présentera par exemple A Good Man, dans lequel il sera question de genre. Et puis labellisé Cannes 2020 également, Steve McQueen, que le grand public avait découvert avec 12 Years a Slave, sélectionné cette fois avec un film qui raconte le procès de policiers accusés d'harceler les Blacks dans le Londres des années 70. Évidemment, ça résonne avec l'actualité. Enfin, 4 films d'animation sélectionnés cette année à Cannes, dont très attendu Soul dans l'univers du jazz, réalisé par Pete Docter, c'est le nouveau patron des studios Pixar. Donc voilà, vous verrez ces logos, Cannes 2020 sur les affiches. Évidemment, il n'y a pas de compétition cette année, pas de festival, mais ça permet quand même d'aiguiller nos choix, on va dire, pour aller ensuite les voir dans les salles.
Effectivement, Mathieu Charrier qui nous a donné envie de retrouver les salles de cinéma, ce sera à partir du 22 juin. La météo, on voit ça tout de suite avec vous Anissa Haddadi. Le tonnerre gronde hein, en ce moment sur Paris, il y a pas mal d'éclairs et même de la grêle. Et pour demain, encore beaucoup d'orages. Hein.
Et oui, on n'en a pas fini, Isabelle, puisque demain matin, sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, il pleut, des averses qui seront accompagnées de coups de tonnerre, des orages localement forts. Hein. À la mi-journée, les pluies se calment, elles vont s'évacuer vers l'Italie, mais attention, sur le Var, la Corse et le Languedoc-Roussillon, c'est le vent qui se renforce. Alors, du Pays Basque à l'Alsace, sur une grande partie de la France, hein, en passant bien sûr par l'Auvergne, par la Bourgogne-Franche-Comté, par le Limousin, eh bien là, les orages seront parfois violents. Aussi beaucoup d'orages demain après-midi. En Bretagne, Pays de la Loire, sur la façade atlantique, la Normandie, les Hauts-de-France et une petite partie de la région parisienne, eh bien là, le ciel est nuageux avec des averses qui seront bien plus rares. Au nord de la Seine, attention, en fin de journée, là, les averses deviendront plus soutenues, plus importantes et plus fréquentes. Les températures, elles sont en baisse demain avec 10 à 15 degrés demain matin. Là, c'est stationnaire, mais dans l'après-midi, écoutez bien, ça se rafraîchit avec seulement 15 à Dunkerque, 19 à Nancy, Lorient et Paris, 20 à Nice, 21 à Besançon, 24 à Avignon et 25 pour Nîmes, la maximale.
La météo signée, Anissa Haddadi. Europe 1. Dans un instant, la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Dutheil qui reçoit ce soir Béatrice Denoré, la directrice générale de Belle France. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 22h17, merci à vous d'écouter Europe 1. Il est temps de retrouver Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Alors racontez-nous tout. Wall Street poursuit sur sa lancée et remonte encore nettement ce soir en clôture.
Ça continue avec une forte hausse du Dow Jones en particulier de plus de 2%. Au rythme de la reprise de l'activité économique, puisque le marché reste sourd aux manifestations qui agitent le pays, les indicateurs sont meilleurs que prévu au mois de mai et ça a suffi au bonheur des investisseurs avec cette hausse de plus de 2% du Dow Jones, 2,05%, 26 270 points. Le Nasdaq prend 0,78%. C'est moins spectaculaire, mais ça permet à l'indice Nasdaq de revenir à seulement 1% de ses sommets. Plus 0,78% exactement, 9 683 points. Parmi les valeurs en vue, Twitter gagne 8%, $34,88. Patrick Pichette, l'ancien directeur financier de Google, a été nommé à la tête du conseil d'administration de Twitter, qui est en plein bras de fer avec Donald Trump. Alors ça va peut-être aider le groupe. On a aussi Warner Music qui fait une entrée remarquée sur le Nasdaq ce soir en levant près de 2 milliards de dollars. Warner Music, donc l'éditeur musical, grimpe de 20%. $30 ce soir, une première séance très remarquée à Wall Street. Et puis tout le secteur aéronautique remonte encore. On a United Airlines, plus 12,5%. On a aussi Delta, plus 7,8%. Airbus gagne 7%, $68,40. Le pétrole est plus calme, il est remonté à $40. C'était hier, on revient un cran en arrière, hein, pratiquement rien. $39,90, une consolidation sur le baril de brut. Et puis l'euro reste ferme au-dessus des 1,12. 1,12,45 face au dollar.
Et la Bourse de Paris, elle, a terminé de nouveau en forte hausse de plus de 3%.
3,3%, oui, là c'est assez spectaculaire. Plus de 5000 points, de retour à 5022 points, ce qui porte quand même à 38% le rebond des valeurs françaises depuis le mois de mars, depuis le trou du mois de mars. Comme la semaine passée, ce sont les secteurs les plus malmenés dernièrement qui se reprennent encore avec l'automobile. Renault, plus 10,5%, 23,96€, après le feu vert de l'État pour un prêt allant jusqu'à 5 milliards d'euros. Et puis Peugeot regagne aussi 6%, €14,41. Les valeurs financières aussi remontent assez nettement. L'assureur AXA, plus 10,5%. Le réassureur Score, plus 10%. Et puis BNP Paribas, plus 5,5%. L'aéronautique, comme aux États-Unis, remonte aussi. Air France, plus 11%. Airbus, plus 7%. Thalès regagne encore 6% ce soir.
Et il y a une exception, hein, c'est le titre Iliad qui n'a pas profité de l'optimisme boursier du moment.
Oui, alors c'est la maison mère de Free. Donc Iliad perd 1,5%, €163,75. Une petite baisse. Selon certaines rumeurs, l'opérateur serait prêt à se lancer sur le marché du fixe en Italie. Free est déjà présent dans le mobile depuis 2 ans en Italie avec 6 millions de clients. Le broker Morgan Stanley est plus prudent sur le dossier après son récent rebond. Le titre est juste conseillé à conserver. 165€, c'est l'objectif de Morgan Stanley sur Iliad qui termine ce soir à €163,75 en baisse d'1,5%. Sur les autres places financières, ça monte partout et fortement à Francfort en particulier. Le DAX gagne 3,9%, Milan plus 3,2%, Madrid plus 2,9% et Londres plus 2,6%. On rappelle le CAC 40 en hausse, forte hausse de 3,3%, 5 022 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Didier Hamot de boursier.com. Il est est temps de retrouver l'invité Éco, Emmanuel Duteil. Vous recevez ce soir la directrice générale de Belle France.
Bonsoir Béatrice Denoret.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale de Belle France. Alors on va citer quelques-unes de vos marques mythiques, la vache Kiri, Kiri, Mini Babybel, l'Air d'Amer, et il y en a beaucoup d'autres. Avec vous, on va regarder déjà comment s'est passé le confinement, et puis surtout on va voir les leçons que l'on peut tirer de ce confinement sur notre consommation. J'imagine que vous faites partie des produits qui ont plutôt été consommés pendant le confinement, Béatrice Denoret.
Alors écoutez, en effet, on a eu à faire face pendant ce confinement à des grands changements de consommation, puisque la consommation a été quasiment exclusivement à domicile. Et la plupart de nos marques sont dans beaucoup de frigos français. Donc on a eu un transfert en fait de la restauration commerciale et collective, où nous sommes aussi présents, vers la restauration à domicile, et avec des produits qui sont à la fois accessibles, versatiles, qui permettent de cuisiner au quotidien. Ça a permis d'avoir effectivement des produits qui étaient à portée de tous.
Beaucoup de gens de l'agroalimentaire disent que l'une des principales leçons qu'ils ont pu tirer, c'est que les gens continuent encore aujourd'hui à acheter en grosse quantité. On va prendre par exemple l'exemple des vaches Kiri, ça existe en plein de formats. Est-ce que le gros format est redevenu le format à la mode ?
On a eu pas mal de ventes sur la part 32, on a eu des ventes un peu sur tous les formats, on continue à avoir quand même de la consommation, mais avec une évolution ces dernières semaines. Ce qui est vrai, c'est qu'on a des produits aussi qui sont des produits laitiers, qui sont des produits frais, donc il n'y avait pas de gros phénomène de stockage, même si on a pu voir des évolutions dans le type de produits qui étaient achetés. C'était plutôt effectivement des produits pour cuisiner, des produits pour le goûter ou pour le petit déjeuner, par rapport aux produits conviviaux comme Apéricube, mais qui reviennent maintenant avec le déconfinement sur le devant de la scène.
Avec vous, on sait exactement comment la consommation fonctionne. Vous citez Apéricube, je pense que c'est un excellent exemple. Depuis que le déconfinement est là, tout de suite, vous avez vu que les apéros ont repris ?
Oui, on revoit depuis deux semaines. Alors, on avait quand même gardé un besoin de convivialité qui est resté fort, et on voit dans les tendances de consommation, il y a eu à la fois ce côté digitalisation dans les relations, mais aussi un besoin de convivialité accru et un besoin aussi sur des marques iconiques, des marques sûres, responsables, locales. Et le retour, effectivement, que ce soit des apéros pendant la période de confinement à distance, mais aussi ce besoin de se retrouver dès le déconfinement.
Vous parlez de local, c'est quelque chose sur lequel vous essayez beaucoup d'insister en ce moment. Je crois que vous lancez même en ce moment votre première marque de 100% bio et local, le fromage de Margot. Parce que ce n'est pas obligatoirement l'image que l'on a toujours avec certaines de vos marques, que ce soit la vache Kiri, que ce soit Babybel ou ce genre de choses.
Nous sommes un groupe français, familial, qui est ancré sur le territoire français depuis plus de 150 ans. Nous avons des usines dans l'est de la France, à Dole, à Lons, et aussi dans l'ouest, à Sablé, Évron, Passy. Et c'est vrai que nous avons des marques françaises. Nos marques sont ancrées au cœur du patrimoine français. On a des marques formidables, comme vous l'avez souligné. Mais nous n'avions pas de marque 100% bio. Et c'est ce que nous faisons en effet avec le fromage de Margot, qui est c'est la première fois que nous lançons une marque depuis plusieurs décennies. Le but, c'est d'élargir notre offre, d'élargir notre offre sur à la fois du fromage 100% bio, 100% français, accessible, et pas seulement en lait de vache, mais aussi en chèvre et en brebis. On a un partenaire en Dordogne. Donc voilà, on continue à être très ancré dans le territoire avec des offres locales, saines, responsables, qui sont vraiment dans l'ADN de Belle.
Mais ça devient indispensable aujourd'hui, c'est-à-dire que vous le faites parce que c'est ce que le consommateur veut.
On voit l'évolution, et c'était même pré-Covid, mais il y a des tendances qui sont en train d'être accélérées. On sent que le consommateur a besoin de se raccrocher à des produits qui sont des produits sûrs, sains, responsables, accessibles, qui permettent, les marques locales prennent de plus en plus d'importance. C'est le cas de nos marques, alors dont certaines se sont internationalisées, mais on est vraiment ancré dans le patrimoine des marques françaises. On est aussi très ancré dans avec nos partenaires locaux, on travaille avec 800 éleveurs, une association de producteurs en France. On collecte notre lait à moins de 200 km de nos usines. Donc c'est un écosystème qui existait déjà et qu'on continue à renforcer à travers le fromage de Margot.
Mais pour vous, c'est indispensable de se développer, parce que les marques que j'ai citées, la vache Kiri, Babybel, ce sont des marques que les enfants notamment aiment beaucoup. Et c'est un segment qui souffre beaucoup, ce segment enfant. Donc ça vous oblige à vous diversifier.
On cherche effectivement à aller sur différentes tendances de consommation. Les produits pour enfants, effectivement, sont un peu plus sous tension parce qu'il y a une offre aussi qui s'est élargie. Et ce qui est important chez Bell, quand on dit on veut développer une alimentation saine et responsable pour tous, c'est de pouvoir s'adresser à tous les membres de la famille avec des produits qui sont, comme je le disais, versatiles. Donc, ils peuvent avoir plusieurs usages, aussi bien en apéro qu'au sein d'un repas, qu'en fin de repas. Et c'est à travers ces différentes marques qu'on essaye de travailler. Vous citiez la vache qui rit. La vache qui rit, vous l'avez en portion, mais vous l'avez aussi avec pique et croque en formule à emporter dans une boîte à goûter ou pour un snacking sain à un autre moment de la journée, ce qui est aussi le cas de Mini Babybel.
Vous parliez tout à l'heure de la restauration collective. Alors, on commence à voir un retour au travail de nombreux collaborateurs, mais pour autant, en tout cas, c'est le cas par exemple encore à Europe 1, les restaurants d'entreprise restent fermés ou en tout cas avec activité très très limitée. Pour vous, ça va être très très dur, ça, si on ne revient pas à la normale de ce côté-là?
Tout à fait, on a eu à faire face à une baisse de plus de 40% de notre division restauration hors domicile, qui couvre à la fois la restauration en entreprise, mais aussi, surtout, nous, on était très, très présents dans les cantines, et puis aussi dans les hôpitaux, les EHPAD, et c'est vrai qu'on est très marqué par, très impacté par ce changement.
Et qu'est-ce que vous disent vos clients? Ils vous disent, on attend septembre, mais on verra bien. Quel est le calendrier qu'ils vous donnent?
On est en train de reprendre progressivement, donc nous on travaille en partenariat vraiment avec nos partenaires commerciaux, que ce soit la grande distribution ou les distributeurs ou les grands acteurs de la restauration collective. Donc on a une reprise qui est progressive. Aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, ce sont des offres qui sont à la fois portionnables pour pouvoir justement dresser des plateaux. Donc c'est vrai que nous on a beaucoup d'offres en portions, ce qui aide notamment aussi dans les écoles qui veulent reprendre une restauration, les cantines reprennent très peu, mais par contre elles peuvent dresser des plateaux, elles peuvent faire des boîtes à repas, et on sait que la vraie reprise, ce sera plutôt le mois de septembre.
Eh bien, on va surveiller tout ça. Un grand merci, Béatrice Denoret, la directrice générale de Bell France, d'avoir été notre invitée ce soir. On se retrouve demain, 22h20, sur Europe 1.
Merci à vous. Effectivement, on vous dit à demain, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin à la une de vos quotidiens. Violence policière, l'autre état d'urgence, titre Libération, avec une photo des manifestants qui sont venus soutenir la famille d'Adama Traoré, plus de 20 000 personnes à Paris, des milliers en province. Ces rassemblements qui faisaient écho aux manifestations américaines marquent-ils un nouvel élan dans la lutte antiraciste? Le directeur général de la police nationale est lui à la une d'Aujourd'hui en France, le journal qui titre « La police en France n'est pas raciste, violence, délit de faciès, impunité », Frédéric Vaux répond à toutes les questions qui fâchent. Le pari électoral de Trump face aux manifestations, titre quant à lui Le Figaro. Dans Washington, en état de siège, le chef de la Maison Blanche se pose en défenseur de la loi et de l'ordre à 150 jours de la présidentielle, mais les protestataires le défient malgré le couvre-feu. Aide à l'emploi, l'heure du sevrage, titre le journal L'Opinion. Face à la catastrophe annoncée sur le front du chômage, l'État ne peut pas retirer brutalement son soutien. Il doit trouver la bonne manière de répartir l'effort. On rappelle que demain, le président de la République reçoit à l'Élysée les organisations patronales et syndicales. Ce sujet de l'emploi sera bien sûr au cœur des discussions. La quête d'un pacte pour sauver l'emploi. Pour les Échos, l'État est prêt à soutenir les entreprises qui s'engagent à préserver les emplois. La dette, est-ce si grave? S'interroge La Croix. Avec la crise du coronavirus, les dettes publiques des États explosent et la situation est surtout sensible pour l'Italie, dont un décrochage pourrait mettre en danger toute la zone euro. Des frontières européennes vont rouvrir. Titre pour sa part Ouest France, c'est le cas depuis ce matin de l'Italie, on en parlait tout à l'heure dans le journal. Et à propos de l'Italie dans la montagne, Pascal Ratineau revient sur un chiffre qui inquiète beaucoup les autorités transalpines. 318 nouvelles infections ont été enregistrées mardi, avant-hier donc, en majorité en Lombardie, hier plutôt. C'est l'une des régions, vous savez, du Nord les plus touchées par l'épidémie. Un chiffre presque doublé par rapport à la veille. Au moment où un semblant de vie normale reprend son cours, le pays troisième derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne en nombre de morts, doit-il craindre une deuxième vague? Rome n'ose même pas envisager ce scénario catastrophe désormais en lutte contre une autre crise économique, celle-là. L'ouverture des frontières est une des armes pour sauver le secteur clé du tourisme qui pèse près de 13% du PIB italien. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide d'une de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et à 22h30, je vous souhaite une très belle soirée. Vous êtes en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne, évidemment. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
À tout à l'heure, 23h, pour faire un nouveau point sur l'actu.